Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 11 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, toujours une petite gorge enrouée. Merci de vous joindre à nous ce midi. C'est notre dernière émission cette semaine si vous nous écoutez en direct. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou @canal_m sur Twitter. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous touchent, commenter sur l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit pour une dernière fois le Centre de référence du Grand Montréal. Madame Hélène Hamel, coordonnatrice des lignes spécialisées, sera présente pour nous parler de la ligne Jeux, aide et référence. Elle sera dans nos studios à 12h45. C'est aussi la chronique de l'Institut des troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, on se penche sur ce qu'on pourrait appeler en fait le fléau du 21e siècle, le stress, mais particulièrement les effets du stress et de l'anxiété chez les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. On reçoit M. Guy Aublet, conseiller pédagogique en adaptation scolaire à la Commission scolaire Marie-Victorin à Montréal et directeur de la programmation du congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage. Le fait divers du jour, la cantatrice chauve est la première pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco. Et la première représentation a eu lieu le 11 mai 1950 au Théâtre des Noctambules à Paris. On ne parlera pas d'Ionesco à notre émission aujourd'hui, mais plutôt de théâtre, car on reçoit la Gang à Rambrou, un organisme qui permet la participation sociale des personnes ayant un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme par les arts de la scène et les arts visuels. On reçoit Mesdames Suzanne Beaulieu, directrice, et Hélène-Élise Blais, chef de chœur. Mais d'abord, on commence notre émission avec un organisme qui s'emploie à réinventer l'autonomie. Moelle épinière et motricité Québec, aussi connu comme Mémo Québec, œuvre toute l'année à améliorer la condition de personnes qui se retrouvent nouvellement handicapées, souvent à la suite d'un accident. Pour nous parler du soutien offert aux personnes ayant subi une lésion médulaire, je reçois en studio Mme Nathalie Michaud, directrice des services d'intervention chez Moelle épinière et motricité Québec. Bonjour Mme Michaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous
ce
midi.
Ça me fait très plaisir.
D'abord, avant d'entrer plus en détail dans votre mission à Mémo Québec, qu'est-ce qu'une lésion médulaire? Comment ça se crée, comment c'est causé et quelles en sont les conséquences?
Bien, en fait, il y a plusieurs causes. Vous savez que la moelle épinière, c'est la partie du système nerveux central. En fait, c'est vraiment la courroie de transmission entre notre cerveau et le reste de notre corps. Et il peut y arriver soit par vraiment différentes causes. Là, on voit souvent des accidents de voiture, des chutes. Il y a des causes, en fait, qui sont traumatiques. Alors là, on parle vraiment d'un accident. Puis il y a des causes qui sont non traumatiques. Alors, ça peut être, c'est la différence entre la lésion et la blessure médulaire. Alors, nous, on intervient auprès de tout le monde. Les lésions, c'est-à-dire les causes non traumatiques, ça peut parfois être des compressions de la moelle épinière dues à des tumeurs, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mm-hmm. Alors, en fonction de là où est arrivée la lésion ou la blessure médulaire, alors ça va influencer la partie du corps qui est paralysée en tout ou en partie, parce qu'il peut y avoir des lésions complètes ou des lésions partielles. Alors, c'est pour ça qu'il peut y arriver qu'il y ait des gens qui ont des blessures médulaires, mais que la moelle épinière n'a pas été complètement sectionnée. Alors, en ce moment-là, les gens peuvent continuer partiellement là, à marcher, mais à mobilité réduite.
Oui, justement. Donc, c'est là où est-ce qu'on s'emploie justement à réinventer l'autonomie.
Oui.
C'est en fonction de la situation de chaque personne.
Exactement. Exactement.
Et justement, quelle est la mission générale de Moelle épinière Québec? Depuis quand existez-vous?
En fait, jusqu'en 2010, on s'appelait l'Association des paraplégiques du Québec. Et puis, c'est un organisme qui existe depuis 1946. Fait que c'est quand même un des plus vieils organismes communautaires au Québec. C'est quelque chose qui m'a assez impressionnée quand j'ai commencé à travailler à cet organisme-là. Alors, bien évidemment, comme vous le dites, c'est notre mission, c'est de favoriser l'autonomie des des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière, mais aussi plus globalement de tous les Québécois et les Québécoises qui vivent avec un handicap. Alors, pour accomplir notre mission, nous, on intervient dans quatre champs d'activité, c'est-à-dire l'intégration sociale, l'employabilité, la promotion et la défense des droits et des intérêts collectifs, puis aussi le soutien à la recherche. On collabore à chaque année avec plusieurs personnes qui font de la recherche dans notre domaine d'intervention.
On va passer quelques instants sur chacun de ces axes-là. D'abord, la défense des droits et intérêts collectifs. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on entend par un intérêt collectif?
Écoutez, par exemple, en ce moment, on intervient au niveau de la régie des rentes. En fait, on va défendre collectivement auprès du gouvernement, auprès des instances décideuses, les intérêts de nos membres. Ça peut être, par exemple, il y a plusieurs années, on a défendu auprès de la RAMQ le fait que la RAMQ paie un deuxième fauteuil roulant aux gens qui sont en fauteuil roulant. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, on fait aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation. Alors, on a fait une campagne de sensibilisation en 2010 et puis elle a quand même fait grand bruit avec notre vidéo « Juste deux minutes ». Alors, c'était pour le respect des places de stationnement réservées.
C'était vous?
C'était nous!
Ah, je l'ai vu circuler à plusieurs reprises pendant aussi plus d'une année.
Il a circulé énormément sur les médias sociaux. On a eu vraiment beaucoup de vues sur YouTube, effectivement. Et puis là, on travaille présentement à une deuxième campagne de sensibilisation sur l'accessibilité, donc des lieux publics et des services pour les personnes à mobilité réduite et plus particulièrement pour les personnes qui sont en fauteuil roulant.
Mm-hmm. Ces dossiers-là que vous menez devant sont très liés à toute la question d'intégration sociale.
Tout à fait. Alors, l'intégration sociale, on a une équipe, notre équipe d'intégration sociale au bureau qui est composée de 6 conseillers en intégration sociale et de 2 organisateurs communautaires. Alors, les conseillers en intégration, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes devenues paraplégiques ou tétraplégiques. Elles ont chacune leur histoire. Ça fait quand même quelques années qu'elles ont eu leur accident. Et leur travail consiste à intervenir beaucoup en centre de réadaptation, mais aussi ailleurs, vraiment dans le cadre d'activités qu'on fait régulièrement auprès des personnes qui sont devenues paraplégiques ou tétraplégiques. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant de savoir, en fait, c'est que depuis la fin des années 90, au Québec, il y a les centres d'expertise pour les personnes blessées médulaires qui ont été mis sur pied. Alors, un dans l'ouest, un dans l'est du Québec. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un accident, une lésion traumatique, et qu'on s'aperçoit dans une salle d'urgence dans n'importe quel hôpital au Québec qu'il y a une atteinte à notre moelle épinière, on va être transporté dans un de ces centres d'expertise-là. Et nous, nos conseillers en intégration, on offre une permanence dans les, dans les centres de réadaptation qui font partie des centres d'expertise. Alors là, on rencontre les gens là. Et puis, après ça, on les suit tout au long de leur parcours. Alors, on les conseille, on les écoute, on les soutient, eux et évidemment leur famille.
Oui, justement, il n'y a pas de parcours type, en fait, de quelqu'un qui a une blessure ou une lésion médulaire parce que chaque histoire est unique et différente. Mais comment ça se passe, justement, à partir du premier instant en réadaptation?
Oui, en fait, il n'y a pas de parcours type, oui et non. C'est-à-dire que depuis la mise en place, justement, des centres d'expertise, il y a quand même un parcours type. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme je vous disais, que vous retrouvez dans une salle d'urgence et on s'aperçoit que vous avez une lésion à la moelle épinière, alors les gens vont être transportés au centre de traumatologie. Dans l'ouest du Québec, on parle de l'hôpital Sacré-Cœur. Dans l'est du Québec, on parle de l'hôpital Enfant-Jésus. Alors, ça, c'est la phase 1 de la réadaptation. Alors là, ce qui est important, c'est vraiment de stabiliser l'état de la personne. Mm-hmm. Une fois que cela est fait, après habituellement quelques semaines, la personne va aller en phase 2 de la réadaptation. À Montréal, c'est à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay. À Québec, c'est à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Alors là, la phase 2, c'est vraiment la phase intensive de réadaptation. Alors, en fonction du type de lésion, de la hauteur de la lésion, la durée de séjour va être plus ou moins longue. Mm-hmm. Mais habituellement, on parle quand même là, de quelques semaines.
D'accord.
Et puis nous, à l'Institut de Gingras-Lindsay et à déficience physique à Québec, à l'Institut à Québec, on a des conseillers en intégration qui travaillent là, qui assurent vraiment une permanence. Donc, qui vont rencontrer les gens à tous les jours et puis qui vont être disponibles et puis qui travaillent évidemment de concert avec les équipes multidisciplinaires de psychologues, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, infirmières, etc.
La personne qui est, si on veut, prise en, qui est accompagnée, oui. qui est prise en charge, profite de l'expertise, non seulement des professionnels, mais aussi de l'expérience de vie des gens qui l'accompagnent. Mm-hmm. Vous offrez, c'est comme un package deal, si on veut, de soutien psychosocial, de relations d'aide et aussi ce travail justement à l'intégration sociale parce que, oui, c'est un segment essentiel, la réadaptation. Beaucoup de choses vont se déterminer à ce moment-là, mais l'idée, c'est d'être autonome après, dans la vie quotidienne.
Exactement. Puis c'est là qu'on a un rôle assez important. Parce que c'est sûr que quand les personnes sont en réadaptation, là, dans un institut de réadaptation, sont quand même pris en charge. Un jour, ces personnes-là vont devoir retourner à la maison. Mm-hmm. Et quand on parle d'autonomie, c'est là que ça prend tout son sens. Et puis, c'est là où c'est, ça, des fois, c'est plus difficile pour les gens et où là, notre rôle est vraiment très, très, très important. Parce que quand on est en phase intensive de réadaptation, on reçoit vraiment beaucoup d'informations et puis quand le retour à la maison s'effectue, parfois on se rappelle plus de tout et on a besoin vraiment d'un très bon soutien. Alors nous, nos conseillers en intégration vont parfois souvent se déplacer à domicile. On va conseiller, on va aider les gens, par exemple, dans l'adaptation du domicile. Ça, c'est toujours un enjeu très, très grand pour le retour à la maison. Après ça, les soins, la référence à des soins adéquats à la maison, l'adaptation, l'achat et l'adaptation d'un véhicule, etc. Et puis, d'être sûr pour les gens qui ont, par exemple, un agent payeur, que ce soit la Société d'assurance automobile du Québec, s'il s'agit d'un accident de voiture, ou encore de la CSST si c'est un accident de travail. Et je sais que CSST a changé d'acronyme dernièrement, mais je ne m'en rappelle plus. Alors, c'est ça, nous, on aide les gens, là, on aide à s'assurer qu'ils ont tout ce à quoi ils peuvent avoir droit.
Mm-hmm. Et vous allez plus loin aussi, non seulement vous les accompagnez dans ces questions-là de logistique, mm-hmm. de vie quotidienne, mais il y a aussi la question de l'emploi.
Oui, il y a effectivement la question de l'emploi. En fait, partout au Québec, vous voyez, nous, notre mission MMO Québec, l'ensemble de notre mission est nationale, c'est-à-dire qu'on est présent à peu près partout sur le territoire et il n'y a aucun manque de main-d'œuvre qui peut faire faire en sorte qu'on ne soit pas dans toutes les régions du Québec, mais sinon, notre mission est vraiment nationale. Il y a une partie de notre mission qui est régionale et c'est l'employabilité, c'est-à-dire qu'on est un service d'aide à l'emploi pour les personnes et qui ont une limitation physique ou neurologique. Alors là, notre clientèle, c'est plus large. C'est pas seulement les personnes blessées médulaires, c'est vraiment limitation physique et neurologique. Mm-hmm. Et des organismes comme nous, il y en a 25 au Québec. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Alors nous, pour cette portion-là de notre mission, on accompagne des gens, en fait, qui résident sur l'île de Montréal, qui ont plus de 16 ans, qui ont une limitation physique ou neurologique et qui veulent retourner en emploi ou qui veulent effectuer un retour aux études. Alors, on a une équipe de conseillers en emploi, conseillères d'orientation, et on accompagne ces personnes-là. On accompagne, en fait, là, plus de 200 personnes par année.
C'est quand même un chiffre non négligeable.
Oui,
vous
tout à fait.
Vous servez justement de courroie de transmission, finalement, vous, de référence à des centres plus petits, plus localisés aussi pour dans l'environnement.
Oui, si les gens sont dans d'autres régions du Québec, on peut facilement, ils peuvent nous appeler au bureau, puis on va les référer, on va leur donner le nom de l'organisme qui les dessert.
Je disais que vous pouvez aussi donner, avec vos intervenants, aborder en fait des sujets qui sont parfois plus difficiles, plus de l'ordre psychologique ou plus des aspects plus intimes mm-hmm. de la vie,
oui.
entre autres après un accident.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui changent.
Il y a beaucoup de choses qui changent. Oui.
Incluant dans l'intimité.
Oui, et effectivement. Et ça, c'est quelque chose, en fait, dans les centres de réadaptation, il y a des sexologues depuis plusieurs années qui abordent ces questions-là avec les personnes qui deviennent paraplégiques ou tétraplégiques. Et nous, on a senti le besoin de... Puis pas juste avec le sujet de la sexualité, mais avec lui, entre autres, de faire des groupes de connaissances. On appelle ça des groupes de connaissances pour aborder certains thèmes de la vie. Alors, on l'a fait avec la sexualité, on l'a fait avec la prévention des plaies. Les plaies de pression sont... c'est quelque chose de vraiment non négligeable qui arrive à un nombre important de personnes qui sont en fauteuil roulant et qui ont des conséquences vraiment, qui ont de très grosses conséquences sur leur vie. Alors, en fait, ce qu'on développe beaucoup, depuis je vous dirais un an et demi, ce sont des webinaires. Alors, on filme des intervenants, vraiment des intervenants spécialisés, que ce soit une sexologue, on a fait avec prévention des plaies, c'était une infirmière et on va le refaire bientôt. Après ça, on veut faire, on a fait aussi cet automne les soins urologiques. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très important.
C'est un nouvel apprentissage.
Tout à fait, c'est un nouvel apprentissage. Il peut y avoir toutes sortes de difficultés. Alors, on s'est allié avec une urologue de renommée là, à l'IRGLM à Montréal, et puis on a filmé une conférence qu'elle a donnée dans nos locaux. Puis après ça, bien, elle était disponible en direct sur le web, mais après ça, les gens peuvent l'écouter à la maison quand ça fait leur affaire, quand ils sont disponibles. Alors ça, c'est vraiment une formule qu'on développe de plus en plus pour que les gens puissent, de la maison et dans toutes les régions du Québec, avoir accès à cette information-là. Ils ont souvent eu accès à cette information-là tout de suite après leur accident. Mais quelques années plus tard, c'est très, très opportun, très souvent, de revoir cette information-là.
Tout à fait. Et ça peut aussi être utile au reste de la population pour mieux connaître la situation des personnes blessées médulaires et à leurs proches, à leur entourage.
Oui.
En terminant, Mme Michaud, si on veut avoir justement accès à cette information ou si on veut vous contacter, où est-ce qu'on va?
Bien, je vous invite à consulter notre site Internet, évidemment. Alors, moilépinière.com. Il y a sous l'onglet événements toutes les activités qu'on fait partout au Québec et dans toutes les régions et à Montréal. Et puis, je vous invite bien, à nous appeler. Alors, 514-341-7272. Et puis, si vous voulez nous envoyer un courriel, vous avez une question précise, info@moilépinière.com.
Merci beaucoup, Nathalie Michaud, directrice des services d'intervention chez Moi, l'épinière et motricité Québec, Mémo Québec. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça m'a fait très plaisir. Merci.
Continue toujours à Ça vaut le détour. J'en parlais brièvement en introduction. Le 66e anniversaire de la pièce de la pièce d'Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, qui est un des classiques dans le répertoire théâtral. Aujourd'hui, le 11 mai, ça m'amène à parler de théâtre avec mes deux invités qui sont en studio. Mesdames Suzanne Beaulieu, directrice de l'organisme La Gang à Rambroux, et Hélène Élise Blais, chef de chœur à La Gang à Rambroux. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. D'abord, d'où vient ce nom, La Gang à Rambroux?
C'est le nom d'un personnage de notre deuxième pièce de théâtre, qui était Madame Rambrouillette. C'était un personnage qui était, chiante, mal commode, des exigences pas possibles. Et le rôle était tenu par une jeune comédienne du Collège Saint-Jean-Vianney, Voyons, j'ai oublié son nom.
Annie.
Annie Robinson. Et Annie était tout le contraire, vraiment très gentille, préparait des gâteaux quand c'était l'anniversaire d'un de nos participants et arrivait comme ça. Alors, quand on a dit quel nom on se donne, ça a été la gang à Rambrouillette et la gang à Rambrou.
La gang Rambrou qui a dit un petit diminutif.
Oui, de Madame Rambrouillette.
De Madame Rambrouillette, qui devait être un personnage intéressant à interpréter pour cette jeune comédienne. La gang à Rambrou existe depuis 1995. Ça fait longtemps. C'est une longue longévité pour un organisme, mais aussi pour une troupe de théâtre, si on veut, parce que vous axez sur l'inclusion sociale des personnes ayant un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme avec les arts de la scène,
oui,
entre autres. Vous avez beaucoup de volets. Vous avez les arts visuels aussi, mais les arts de la scène, c'est quelque chose qui occupe beaucoup de votre temps.
Ça a été notre premier travail auprès des personnes. Ça a été de créer du théâtre. Ensuite, on a incorporé la musique dans le théâtre et ensuite la danse. Ouais.
Parce que vos pièces, justement, se passent. Il y a des comédiens sur scène et il y a aussi des musiciens sur scène. Et je vous regarde, Madame Blais, vous êtes chef de chœur. Comment ça se passe? Et parlez-nous un peu de vos musiciens, de vos choristes.
C'est des gens très différents les uns des autres, qui n'ont pas toutes les mêmes capacités. Moi, j'aime ça faire découvrir, sortir le talent de la personne avec sa différence. Je suis pianiste aussi, alors j'accompagne. On fait de l'improvisation, on fait de l'interprétation. J'ai des excellents chanteurs maintenant. Puis cette année, ce qu'on fait, c'est l'hommage à Clémence.
Mm-hmm.
Alors, on monte plusieurs chansons de Clémence Desrochers qu'on va présenter en juin.
Madame Beaulieu, vous êtes aussi metteur en scène. Donc, vous travaillez à l'élaboration complète du spectacle.
Oui.
Je lisais que vous travaillez beaucoup sur l'improvisation en premier avec vos acteurs pour ensuite construire des textes.
C'est notre manière de faire habituelle, sauf cette année où, pour fêter nos 20 ans, on a décidé de se faire un gros cadeau et de travailler avec les textes de Madame Desrochers. Avec son accord, nous avons repris certains de ses textes, avons transformé en pièces de théâtre certains monologues. Ça a été notre partie improvisation, mais ça n'a pas été fait avec les participants cette année.
Mm-hmm.
C'est habituellement, avec les participants, on leur demande de choisir un personnage qu'ils aimeraient jouer et de lui donner une identité. Et puis ensuite, on les fait improviser ensemble, puis une histoire se crée. Mais cette année, on a fait ça différemment.
Vous inspirez-vous des participants de la gang à Rambrou, beaucoup, pour
oui,
vos spectacles?
Oui, ça part de leur propre désir, leur propre difficulté. Alors souvent, nos thèmes, c'est sur l'amour, l'amitié, la trahison, l'exclusion sociale. Je me rappelle une année où un de nos participantes avait apporté comme thème, on faisait des contes, on créait des contes et c'était l'extraterrestre qui veut se faire un ami. Alors, souvent, nos clients passent pour des extraterrestres aux yeux de la société.
Mm-hmm.
Alors, c'était très parlant, ce texte-là.
Mm-hmm. Vous avez, à la gang à Rambrou, vous avez cette mission aussi de sensibiliser le public, de sensibiliser la population à la différence, mais entre autres au fait que les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sont comme nous. Ressentent les mêmes choses dans la vie quotidienne, les mêmes émotions.
Oui, effectivement. Puis c'est ce qu'on veut démontrer. Puis on veut démontrer aussi qu'ils ont des talents. Et puis quand on leur donne la chance puis l'opportunité de bien l'apprendre, ils sont capables de bien performer sur scène.
Vos ateliers, de manière générale, est-ce qu'ils sont donnés par des professionnels ou des bénévoles dans l'organisme?
Hélène Élise est professionnelle, elle est auteure-compositeur.
Mais est-ce que vous êtes, Madame Blais, est-ce que vous êtes accompagnée de d'autres gens dans vos ateliers ou vous dirigez tout seul 25 personnes à la fois?
Non, en musique, j'en ai entre 12 et 15. Alors oui, je suis toute seule avec eux quand même. J'accompagne au piano, je dirige les voix, tu sais, de A à Z.
Mm-hmm.
Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu mentionnais, Suzanne, que nos participants c'est vrai qu'ils sont différents des gens de la société, mais cette différence-là peut être tellement inspirante pour les gens. T'sais. C'est comme s'il nous manquait dans un tableau parfois des couleurs ou des formes, puis eux autres, ils nous l'apportent.
Mm-hmm.
Fait que ça peut être quelque chose qui nous nourrit et qui nous inspire. Moi, c'est ça que je veux qu'on voit. Je veux qu'on voit le pareil, mais le pareil, on le voit beaucoup. T'sais.
Mm-hmm.
Ce qui me tente, c'est cette différence-là qui est si inspirante.
C'est la richesse, en fait, que cette différence amène.
Absolument. Puis c'est souvent ce qu'on a comme commentaire des gens. T'sais. Ma sœur est musicienne professionnelle, puis elle est venue voir les shows qu'on a montés à Rambourg, puis elle a dit, Hélène, Élise, ce show-là, là, je ne l'ai jamais vu. J'en ai vu des shows, mm-hmm. mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. C'était un pur plaisir. Fait que ce nouveau-là aussi est important à montrer.
Il y a aussi une autre compagnie, l'école Les Muses, qui s'emploie à faire la même chose, que cette même philosophie d'amener le talent et la richesse de leurs interprètes, de leurs artistes au public. Il y a une belle collaboration aussi avec la gang à Rambourg.
Oui, bien, c'est des organismes qui sont amis ensemble. Notre mission est différente. La mission des Muses, c'est vraiment d'amener de façon professionnelle les gens qui... Puis Hélène Élise y enseigne d'ailleurs. C'est vraiment d'enseigner de façon professionnelle. Nous, les gens qui sont chez nous, ne veulent pas nécessairement en faire leur métier, mais ils aiment le faire, un peu comme de façon amateur.
Mm-hmm.
Fait que nous, on dit... Ils sont amateurs, mais encadrés par des professionnels.
Tout à fait. Et au-delà de l'activité sociale, ça représente aussi un répit pour les parents dont les jeunes font partie de la gang à Rambourg.
Oui, un répit et une fierté aussi. Je vous dirais que les parents sont très impliqués. Ils donnent beaucoup d'heures de bénévolat auprès de nous. Il y a un parent qui est là toutes les semaines. Elle est maquilleuse, esthéticienne de profession. Elle s'occupe de tous les maquillages. Elle a pris les photos de tous les gens pendant les répétitions. Elle a fait des belles prises de photos pour nous. Alors, oui, effectivement, mais un autre de nos programmes, qui est l'arrière-scène, offre davantage de répit parce que les gens sont avec nous du lundi au vendredi. Alors, pour les parents, dans le jour, c'est précieux.
Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'aspects à la gang à Rambourg. Toujours cette idée de d'épanouissement par les arts, vraiment. Je vous invite en dernier à nous dire ce prochain spectacle au mois de juin.
C'est à la Maison de la culture Mercier, les samedis 18 juin à 19h et le dimanche 19 juin à 13h30. Alors, on vous attend, on vous invite.
Pour cet hommage à Clémence Desrochers, oui. rambourg.ca, on va mettre le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup, mesdames, Suzanne Beaulieu, directrice, et Hélène-Élise Blais, chef de chœur de la gang à Rambourg. On vous souhaite un bon succès pour cette prochaine production. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de votre invitation.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleaux.
On continue dans notre programme. On a l'impression qu'on n'a jamais assez de temps avec nos invités et malheureusement, c'est toujours le cas. Je vous rappelle qu'on met toujours les liens vers les organismes, les événements dont on parle à l'émission sur la page de l'émission Ça vaut le détour sur vuesetvoix.com et aussi sur notre page Facebook. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic CVLD et sur Twitter @canal_M. J'accueille en studio pour notre dernière chronique de l'Institut des troubles d'apprentissage M. Guy Aublet, conseiller pédagogique en adaptation scolaire à la commission scolaire Marie-Victorin et aussi directeur de la programmation du congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour M. Aublet.
Bonjour.
Bonjour. Le congrès annuel qui avait lieu cette année du 6 au 8 avril, on en a parlé déjà dans une chronique précédente que vous pouvez trouver dans nos archives. Je le mentionnais en début d'émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est un peu le fléau, si on veut, du 21e siècle, le stress. Mais particulièrement les effets du stress et de l'anxiété chez les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage.
Exact. on peut se rendre compte que depuis quelques années, depuis une trentaine d'années, on voit apparaître de plus en plus ce phénomène qui est le stress, l'inquiétude. Je dirais que sur un continuum, on a des élèves qui arrivent à l'école ou des jeunes qui arrivent à l'école avec certains soucis, certains ennuis, certaines inquiétudes. Pour certains, ils vont avoir des comportements totalement adaptés. Pour d'autres, ça peut devenir un peu plus encombrant et peut avoir des comportements qui sont plus... qui laisse une impression de dysfonction, c'est-à-dire que les inquiétudes deviennent du stress, ce stress devient de l'anxiété, même si en quelque part, stress et anxiété, c'est la même chose ou sensiblement la même chose. Dans la tête des gens, sur un continuum, l'anxiété semble être quelque chose de plus problématique que le stress, alors que dans le fond, c'est un peu la même chose. Et qu'est-ce qui fait que ça devient... qu'on voit apparaître de plus en plus, ou c'est un sujet qui est de plus en plus à la mode, je vous dirais que pour la commission scolaire pour laquelle je travaille, c'est une problématique qui est soulevée dans toutes nos écoles, primaires, secondaires, dès le préscolaire d'ailleurs, on le voit apparaître. Et on peut se questionner pour dire quels ont été ces changements-là qui font qu'aujourd'hui, nos jeunes sont beaucoup plus stressés qu'ils étaient auparavant.
Tout à fait. Est-ce que c'est le fait qu'on a fait plus d'études qui démontrent que les jeunes sont stressés par rapport à il y a 30 ans, ou c'est tout simplement la conjoncture de plusieurs facteurs qui font qu'on est stressé en 2016?
Je dirais que les deux, mais je pense que la conjoncture de 2016 fait en sorte que nos jeunes se retrouvent beaucoup plus stressés. On a juste à penser à la vie d'un jeune enfant de 7, 8, 9 ans. Il y a 40-45 ans, on allait à l'école le matin, on marchait souvent un kilomètre pour se rendre à l'école, on revenait dîner à la maison, on écoutait des émissions tout à fait relaxantes, genre les pierres à feu.
Exactement.
Donc, on mettait notre cerveau à zéro, on retournait à l'école à pied, on revenait en fin d'après-midi, peu importe le temps de la journée. Aujourd'hui, nos jeunes arrivent au service de garde des fois à 6h30, 7h le matin. Ils vont y passer toute la journée jusqu'à 17h30, 18h, certaines écoles, 18h30. Et là, les parents arrivent et dans la tourmente de la fin de journée, la fatigue, rapidement le souper, les devoirs, les leçons, la routine du dodo et on part pour le dodo. On met nos jeunes, et souvent nos jeunes aujourd'hui, ils vont avoir des activités, sportives, des cours de musique, des cours de langue, et ça va se passer parfois en semaine, parfois les samedis. Dernièrement, j'ai une amie qui me disait que son grand garçon de 9 ans lui a demandé si un samedi on pouvait ne rien faire.
Tout à fait. On semble avoir perdu cette capacité à ne rien faire et à ne rien planifier.
Et voilà, on a des agendas, nos enfants ont des agendas bien remplis. Ça, c'est un élément. Donc, toute la famille a changé. Son image a changé. On a des familles composées, recomposées, décomposées. On a des familles où avant on était un frère, une sœur. Maintenant, j'ai 8 frères et sœurs parce que mes parents, ils se sont dédoublés, où on a des familles qui sont très différentes. Et il y a tout l'accès à l'information. Il y a 30, 40 ans, quand il arrivait un cataclysme, une catastrophe en quelque part dans le monde, il fallait parfois mettre 24, 48 heures avant d'avoir des images. Aujourd'hui, il se passe une tuerie à Paris et en moins de quelques minutes, on a des images et on a des images qui sont vraiment importantes et qui nous démontrent vraiment ce qui est arrivé. Donc, on voit des cadavres, on peut voir en direct des vidéos qui ont été filmées par des caméras et nos jeunes qui reviennent après l'école à 18 heures avec papa et maman qui sont assis autour de la table. Bien, eux, ils regardent la télévision, puis ils voient passer en boucle toutes ces images-là. Et qui leur explique?
Exactement. Ce sont des images parfois traumatisantes et où est-ce qu'on n'a pas un contexte, une mise en contexte, une explication, une vulgarisation. À 7 ans et à 17 ans, on ne comprendra pas la même chose.
Et faut même si l'enfant regarde les images puis ne se questionne pas trop, de voir en direct des gens se faire tuer, de voir en direct des catastrophes où on va sortir des cadavres, des décombres, c'est des images importantes. Et moi, je m'amuse parfois à dire, il y a de ça à peu près 40 ans, en 1973, il y avait eu un journal qui s'appelait Le Petit Journal. Et dans Le Petit Journal, il y avait un article qui disait que le Mont-Royal était un volcan en dormance. À cette époque-là, j'avais 13 ans et j'ai passé des semaines, des mois à ne pas dormir, à développer du psoriasis parce que ça m'inquiétait jusqu'au jour où... Bien, mes parents se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas et on en a discuté. Puis là, j'ai compris que le Mont-Royal, probablement, il dort pour encore bien longtemps. Mais Quand on n'explique pas les choses, bien, les inquiétudes, puis tout notre cerveau se met dans un mode de cinéma et on voit des scénarios qui sont parfois catastrophes.
Tout à fait, le hamster se met à rouler dans le cerveau. Monsieur Aublet, comment ces périodes, parce que parfois ça peut être périodique, ces périodes de stress-là ou cette anxiété-là se manifestent chez les jeunes?
Bien, souvent, ça va être par de l'hypervigilance. Ça va commencer par de l'hypervigilance. Ça peut aller jusqu'à refuser, faire de l'évitement, ne pas vouloir faire une tâche, ne pas vouloir aller à tel endroit, ne pas vouloir aller à l'école, ne pas vouloir quitter maman parce que... ne pas vouloir quitter maman. C'est comme ça qu'on va le repérer. Puis souvent, c'est par l'hypervigilance de notre jeune qu'on va le constater. Il y en a qui vont dire que c'est parfois un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention, mais il faut faire attention entre le vrai TDAH et l'élève qui est en hypervigilance.
Qu'est-ce que l'anxiété? On a abordé ces deux aspects, le stress et l'anxiété. Ça peut devenir confus parfois. On sait plus ou moins qu'est-ce qu'on vit réellement, finalement. Même en tant qu'adulte,
oui.
Parfois mettre les mots là-dessus, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme indice qui nous fait pencher plus vers l'anxiété?
En fait, à partir du moment où mes comportements changent, à partir du moment où je refuse de faire quelque chose parce que j'ai des inquiétudes, j'ai des ennuis, puis que j'ai des peurs et que j'évite, on est beaucoup plus proche de l'anxiété. Je ne parle pas des troubles anxieux nécessairement. C'est autre chose et on tombe dans une autre catégorie. Mais déjà, quand on a un élève qui a une communication orale et qui, le matin, avant de venir à l'école, parle de maux de ventre, refuse de venir à l'école, qui réussit à ne pas venir à l'école, de rester à la maison, ça va être encore plus difficile la prochaine fois qu'il y aura une communication orale parce que cette fois-là, il y aura évité, il y aura eu un sentiment de bien-être et la fois suivante, l'anxiété ou le stress va être encore plus grand. Mm-hmm. C'est toujours la question du fonctionnement. Il y a des gens qui... Puis être stressé, c'est utile dans la vie. Quand on a une épreuve, quand on a un examen à passer, quand on a une entrevue à passer, d'avoir un petit stress... ça nous donne un petit boost d'adrénaline qui nous permet de faire face.
Tout à fait. Le stress peut être bénéfique. Le trac, ça peut motiver, ça donne de l'adrénaline, alors que l'anxiété va plus amener à paralyser, à se retirer, à s'isoler.
Et à éviter. Le comportement qu'on voit le plus, et on fait une confusion avec l'opposition, c'est de l'opposition. Mais ce n'est pas une opposition pour être opposant. Ce n'est pas une opposition parce que je n'ai pas compris ce que je devais faire. C'est une opposition parce que j'ai peur de faire la tâche.
Oui, c'est plus fort que nous.
C'est plus fort que nous.
Quels sont les impacts, justement, dans des moments peut-être de transition importante pour les élèves en difficulté d'apprentissage?
Bien sûr, toutes les transitions. Hein. Je pense, entre autres, la rentrée à l'école au préscolaire, le passage du préscolaire en première année, la sixième année en secondaire. C'est une des transitions les plus importantes. Et cette transition-là, elle est majeure. Je pense aussi... aux examens, quand il arrive des périodes d'évaluation, souvent les jeunes vont vivre plus de stress. Quand on est dans des classes et qu'on n'est pas capable de suivre le rythme du reste de la classe et que notre image qu'on se renvoie est celle de ne pas être capable, ça vient toucher notre estime. Et quand notre estime est touchée, on se protège. Et la façon dont on se protège, parfois, c'est de disparaître, c'est-à-dire de faire semblant qu'on n'est pas là, ou encore prendre toute la place, puis là, faire le clown et déranger. Et là, on développe d'autres genres de comportements. Mais au fond, cet évitement-là, cette opposition-là, c'est la même chose. C'est toujours un signal que quelque chose ne va pas, que ça ne fonctionne pas et que l'élève n'est pas capable de faire face à...
À ce qui s'en vient.
À ce qui s'en vient.
À ce qu'il doit donc affronter. On est au mois de mai. La période d'examen arrive pour beaucoup d'étudiants. Mai, juin, ça commence. Il y en a certains même qui terminent leur cheminement scolaire au secondaire cette année. Quel truc on peut leur donner à ces jeunes-là pour arriver à avoir une meilleure transition ou du moins à se contrôler? À pouvoir passer au-delà de ce stress, de cette anxiété-là?
Deux choses. D'abord, un truc pour les enseignants. Les examens de fin d'année ne sont pas plus importants que toute autre évaluation au cours de l'année. Mm-hmm. Ça demeure une trace, ça demeure une lecture d'un événement cette journée-là, une photo que je prends cette journée-là. Et cette trace-là, elle n'est pas plus importante que les autres. Donc, je pense déjà là de ne pas mettre d'accent sur le fait qu'on a des examens du ministère à passer puis que c'est l'examen le plus important de ton année. On fait juste augmenter le stress fait, quand
moi.
On fait ça.
Moi, j'avais l'impression au secondaire que c'était la fin de ma vie si je ne survivais pas la semaine.
Pour les élèves, c'est sûr qu'il faut construire, il faut travailler avec eux à développer des ressources internes. On peut penser à des activités qui sont relaxantes, comme le yoga, les respirations. On peut faire la pleine conscience avec les élèves. On peut aussi travailler avec eux, faire de la bicyclette, faire un exercice physique dans lequel on va pouvoir faire une certaine décharge de tension et d'apprendre à se relaxer. Apprendre aussi à se remettre dans une zone de contrôle. Donc, de regarder des photos avec des événements heureux, un anniversaire, une vacance qu'on a eue, et de se replonger, ou de se replonger dans un succès scolaire qu'on a
Exactement.
Eu. Donc, de dire, bien, cette année-là, j'ai fait cet examen, puis ça s'est bien passé. Donc, cette année, je devrais être capable de faire. Puis, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille bien? Puis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est toujours de retravailler les ressources internes de la personne, puis briser ce cycle, ce petit scénario catastrophe qui est dans notre tête.
Monsieur Aublet, on parle de cette idée de se dépenser, de dépenser notre stress, qui est un conseil très bon pour tout le monde, cela dit, pas seulement pour les jeunes, dans le sport, entre autres. Mais on parlait aussi, vous évoquez le yoga. La méditation, peut-être. Est-ce que dans nos écoles, on a... est-ce qu'on est sensible à ça? Il y a beaucoup de classes de sport, mais est-ce qu'il y a des classes de yoga? Est-ce qu'il y a des classes de méditation? Ou est-ce qu'on peut aller vers des activités plus relaxantes, qui vont convenir à certaines personnes?
Il n'y a peut-être pas de classe de yoga, sûrement qu'il y a des cours qui peuvent se donner, mais déjà dans les classes, comme enseignant, de penser qu'en début de période ou en milieu de période, demander à mes élèves de se lever, de faire le spaghetti dur, le spaghetti mou, donc de tendre les muscles au maximum pendant 10-15 secondes, de relâcher, faire des respirations avec les élèves, fermer les yeux, visualiser un moment positif dans la vie. J'ai une classe de première année où je vais et les enfants, le matin, ils dansent la Macarena. Et l'autre matin, ils vont danser sur Agadou. Et d'une classe à l'autre, ils s'échangent ça. Et ça permet aux élèves de revenir, d'être complètement relax et d'être prêts à affronter la suite de la journée. Il y a des écoles où est-ce qu'on va... L'après-midi, on va faire une grande marche autour de l'école pendant 15 minutes, 10-15 minutes. Quand on revient en classe, on n'a plus... prendre de l'air, on a pu changer notre cerveau, brasser un peu nos idées, et on est beaucoup plus disposé. Alors, c'est des petites choses que les enseignants peuvent faire dans leur classe.
Si on veut avoir justement plus de trucs à la fois, comme si on est enseignant, mais ou si on est un jeune, ou si on est un adulte aussi qui pense qu'il y a peut-être des problèmes de stress ou d'anxiété, où est-ce qu'on peut aller chercher ces ressources auprès de l'Institut des troubles d'apprentissage?
À l'Institut des troubles d'apprentissage, c'est sûr qu'au niveau du congrès, déjà, on va recevoir des personnes qui sont des spécialistes de l'anxiété, des spécialistes aussi de différents domaines. On pense à la pleine conscience, on va penser au brain gym, on va penser à de l'activité physique. On va retrouver des gens qui vont faire des propositions, qui vont expliquer un peu pour que les gens puissent mieux comprendre et mieux connaître ce que c'est que l'anxiété. Mais ensuite, on va travailler avec eux l'intervention puis développer un peu... amener les enseignants à eux-mêmes développer leurs propres ressources internes puis se remettre dans une situation stable et d'inviter leurs élèves aussi à retrouver ça. Donc, à l'Institut, au niveau du congrès, au niveau du colloque parents aussi, parce que ça peut être intéressant au niveau pour les parents, puis ils peuvent faire des demandes. S'il y a des écoles qui souhaitent qu'on aille dans leur école puis qu'on aille donner des formations, à ce moment-là, ils peuvent prendre contact avec nous puis on va s'organiser pour aller les rencontrer et leur donner un minimum de formation.
Quelques secondes, Monsieur Aublet, pour nous donner le site web ou une ressource externe. Est-ce qu'on l'a?
Oui, institutta.com.
On va mettre le lien sur la page de l'émission. Dans le doute, on est pas sûr.
Non, je pense que je suis correct.
Merci beaucoup, Guy Aublet. Vous êtes conseiller pédagogique en adaptation scolaire à la Commission scolaire Marie-Victorin à Montréal et directeur de la programmation du congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.
Ça vaut le détour. On amorce notre dernier segment de l'émission de la semaine aussi, si vous nous écoutez en direct. On a eu plusieurs collaborateurs au cours de la saison, dont le Centre de référence du Grand Montréal. Et c'est notre dernier tour de table aujourd'hui. C'est notre dernière chronique mensuelle avec le Centre de référence. Et j'ai en studio Hélène Hamel, coordonnatrice des lignes spécialisées du Centre de référence du Grand Montréal. Bonjour.
Bonjour, Maxime.
Rebienvenue dans nos studios.
Merci.
À notre émission du 13 avril dernier, vous étiez aussi venu en studio pour nous parler de la ligne drogue, aide et référence. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la ligne jeu, aide et référence. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez brièvement la mission du Centre de référence du Grand Montréal.
D'accord. Donc, le Centre de référence du Grand Montréal va fêter cette année ses 60 ans, 60 ans de services auprès du Grand Montréal. Donc, ce sont essentiellement des services téléphoniques vraiment qui touchent, qui donnent de l'information sur à peu près tout ce qui touche la vie au quotidien, la santé, le travail, les loisirs, les services sociaux. Depuis quelques années, le Centre a également mis sur pied une ligne pour les aînés, spécifiquement pour les aînés, et plus récemment, un service 211, dans le fond, qui est un service semblable à la base à la philosophie au service de base du Centre, mais offert finalement sur un plus grand territoire, en commençant par Laval. Mm-hmm. Donc, Jeux, aides et références a été constitué en 1993, l'année où le Québec a accueilli son premier casino, celui de Montréal. Mm-hmm. Dans les années suivantes, les trois autres casinos ont été mis sur pied. Le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Auto-Québec voulaient s'assurer que, en même temps qu'on offrait qu'il y avait une offre de jeux plus intense, plus étendue, qu'il y ait également des services, finalement, qui puissent être offerts aux gens qui, éventuellement, pourraient développer un problème.
On avait déjà cette préoccupation-là, donc, en 1993, il y a plus de 20 ans, pour s'assurer que même si on met beaucoup l'accent sur le jeu ludique et occasionnel, donc ça doit rester toujours dans le plaisir, ce risque, mais aussi ce potentiel problème qui pourrait se développer. On y avait déjà réfléchi.
Oui, effectivement. En fait, la majorité... D'abord, il faut savoir qu'il y a environ 2/3 des Québécois qui ont joué, si on veut, dans la dernière année. Par contre, de ces 2/3-là, la grande majorité n'éprouveront pas de problème. On parle d'un petit pourcentage de gens qui ont des problèmes. Donc, environ 1,2, les pourcentages changent là, d'une étude à l'autre. Mm-hmm. Faut savoir que le jeu problématique est quand même en légère baisse, en léger déclin depuis quelques années. Fait qu'on a environ 1,2% de joueurs à risque et environ entre 0,5 et 0,7% de joueurs pathologiques probables, pardon. Mm-hmm. Donc des joueurs là, qui ont des gros problèmes.
Madame Hamel, quels sont les signes avant-coureurs ou qu'est-ce qu'on peut surveiller lorsqu'on développe peut-être un problème par rapport au jeu? Et surtout, qu'est-ce qu'on entend par jeu?
Oui. D'abord, il faut savoir qu'on parle des jeux de hasard et d'argent. Donc, il faut absolument qu'il y ait de l'argent en jeu. C'est vraiment le nœud du problème. Il y a dans les problèmes de jeux compulsifs l'appât du gain. Quand je dis l'appât du gain, c'est parfois le rêve, finalement, le rêve de se sortir d'une situation financière difficile, mm-hmm. Le rêve de pouvoir gâter ses proches. Donc, il y a vraiment la question financière qui est au cœur. Et comment on s'en rend compte, soit que nous, on a un problème, soit que notre proche a un problème? Bien, c'est à partir du moment où il y a des conséquences négatives, finalement, qui sont liées aux habitudes de jeu. Ça peut être un désintérêt progressif par rapport aux autres loisirs, aux autres aspects de la vie qui auparavant avaient toute leur place. Ça peut être de dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'on peut se permettre de dépenser. Puis là, on nommera pas de montant parce que chacun, finalement, a les moyens propres. Mais quand on dépense plus que ce qu'on pouvait se permettre et qu'on a de la difficulté à payer son loyer ou l'épicerie, alors à ce moment-là, on peut penser là, qu'il y a un problème.
C'est quand le jeu devient une priorité par rapport à d'autres éléments.
Oui, devient l'intérêt central au centre de la vie de la personne.
Quelle est la provenance des demandes que vous recevez au Centre de référence du Grand Montréal?
La provenance dans le centre, quels sont les gens, qui nous appellent?
Le pourquoi on vous appelle, est-ce qu'on le dit d'emblée? Est-ce qu'on appelle pour son ami, je dis ça entre
D'accord.
guillemets?
Ouais,
comment est-ce que ça se manifeste, cette aide qu'on vient chercher auprès de vous?
D'accord. D'abord, il y a environ 90 % des gens qui nous appellent qui sont préoccupés par leurs propres habitudes de jeu et environ 9 % de proches et d'intervenants sociaux qui travaillent auprès de ces personnes-là. Et les gens qui nous appellent sur cette ligne-là, je dirais, ont un profond sentiment de honte, ce qui fait que les débuts d'appel sont parfois difficiles, il faut un peu aller les chercher. Alors, ils ont le courage d'appeler. Une fois qu'ils sont en ligne, finalement, avec l'un de nos intervenants, ça peut être difficile pour eux de dévoiler qu'avec ce qui est supposé être ludique, on a développé un problème. Pour eux-mêmes, c'est difficile à admettre. Et donc, il faut vraiment user de beaucoup de délicatesse, de patience et de discernement pour amener ces gens-là à s'ouvrir. Mais ils ont définitivement besoin d'abord que ce soit reconnu, que soit reconnue la normalité, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre pourquoi ils ont développé ce problème-là. Et ils ont besoin aussi de savoir qu'il y a vraiment de l'aide précise, concrète, disponible pour eux.
Justement, cette aide qui est disponible pour eux, ce ne sera pas la même dépendamment à quel stade la demande va être faite. Si on est au début et qu'on commence à peut-être s'inquiéter de la place que le jeu commence à prendre dans notre vie versus quelqu'un qui va avoir vécu beaucoup d'épreuves amenées par ça, on parle souvent de divorce, de perdre un emploi, de perdre sa maison, que l'aspect familial est affecté. Ça sera pas la même situation d'urgence non plus. Ce sera pas la même prise en charge.
Vous avez tout à fait raison, Maxime. Cependant, les gens qui appellent sur la ligne Je aide et référence, je vous avoue que c'est assez rare qu'on commence à s'inquiéter finalement des effets du jeu sur notre vie, du jeu de hasard et d'argent.
D'accord.
Généralement, la vie des gens est très détériorée lorsqu'ils nous appellent.
D'accord. Donc déjà, ça situe tout de suite le besoin. Et donc, vous, après, vous pouvez comment vous les référez à d'autres ressources?
Alors, au Québec, dans chacune des régions administratives, il y a un centre de réadaptation en dépendance qui, au départ, dans les années 90, offrait des services en toxicomanie. Et dans les années 2000, ont développé un programme avec l'aide du professeur Robert Ladouceur, une sommité internationale qui était chercheur à l'Université Laval à Québec. Il y a eu un programme spécifique aux joueurs développé et que toutes les régions, dans tous les CRD, finalement, on applique. Donc, il y a le réseau des centres publics. Il y a aussi les groupes d'entraide, comme Gambler Anonyme, mm-hmm. Qui est vraiment un groupe. On n'y fait pas de la thérapie, mais c'est un bon soutien, c'est un bon filet. Et Je aide et référence, qui est également un filet de sécurité, parce que comme on est là 24/7, les gens savent qu'ils peuvent nous appeler à tout moment. Et de plus, depuis 4 ans, donc depuis 2012, nous avons mis sur pied, le ministère de la Santé et des Services sociaux nous a demandé d'offrir un service de télécounseling aux joueurs excessifs. Donc, c'est une thérapie très courte, par téléphone uniquement. Donc, les conseillers donnent des rendez-vous téléphoniques aux gens qui veulent participer au programme. C'est un programme en 7 rencontres et par la suite, une possibilité de 4 suivis qui s'échelonnent sur 1 an après la fin du programme.
Combien de demandes par année? Êtes-vous capable d'évaluer combien de demandes vous avez?
Oui. En fait, durant notre première année, nous avons traité 38 personnes. Durant la deuxième, près de 80. La troisième, près de 100. Et la quatrième, on a dépassé 100. Actuellement, on est dans notre 5e année. Et si le rythme actuel se poursuit, on traiterait environ 200 personnes.
C'est vraiment un travail essentiel que vous faites. Je vous invite, en terminant, à nous donner le numéro de téléphone de cette ligne « Jeux, aides et références ».
Donc, 24-7-1-800-461-0140.
Merci beaucoup, Hélène Hamel, coordonnatrice des lignes spécialisées au Centre de référence du Grand Montréal. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est ce qui met fin à notre programme. Je remercie mes invités, Hélène Hamel, Guy Aublet, Suzanne Beaulieu et Hélène-Élise Blais. Et on avait commencé l'émission avec Nathalie Michaud. Je remercie mon équipe technique à la mise en onde Jean-Sébastien Laliberté, à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna. C'était Maxime Despomerleau. Je vous dis à lundi prochain pour une autre semaine de Ça vaut le détour. À bientôt.